at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Nous sommes bientôt en décembre, Noël approche et aussi j'ai déjà deux cadeaux pour vous. Premièrement, notre nouvelle chroniqueuse trimestrielle, Thaïs. Bonsoir Thaïs et bienvenue dans l'équipe.
Bonsoir.
Salut Thaïs.
Thaïs, tu es game designer dans le studio indépendant Seed by Seed qui a sorti son premier jeu Pile Up, un puzzle platformer coopératif super mignon. Tu enseignes le game design et le level design en plus d'être chercheuse indépendante en game studies. Et enfin, tu es cofondatrice aux côtés de Clémentine Plissonnier et Camille Moreau du collectif Mauvaises Herbes, qui encourage la visibilité et la reconnaissance de l'expertise des personnes marginalisées de l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous dire de quoi va parler ta chronique ?
Tout à fait, je vais vous parler des systèmes de sauvegarde. Et plus généralement, ma chronique parlera un petit peu de la distance entre aborder certains aspects du game design en tant que joueur-joueuse et en tant que game designer.
Ça a l'air super intéressant, j'ai hâte d'en apprendre plus. Et notre deuxième cadeau pour vous, et finalement on peut dire qu'on vous fait au moins un cadeau par mois dans l'émission, n'est autre que notre invitée. Elle est chroniqueuse de l'émission Jour de Play, dont nous avons reçu presque l'entièreté de la core team dans notre émission, directrice et commissaire d'exposition de la galerie Pixel Life Stories, autrice du livre imaginaire du jeu vidéo Les concept artistes français qui vient de paraître chez Third Edition et le livre d'art. Et si vous ne l'avez toujours pas reconnu, je vous propose de donner un accueil chaleureux à Marine Mac. Bonsoir Marine.
Salut tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, c'est cool d'être là avec vous.
Salut Marine.
Bonsoir.
Salut Marine.
Salut.
Merci Marine d'avoir accepté notre invitation dans cette émission qui promet d'être tout bonnement incroyable puisque Elise va nous parler de The Shore et de Lovecraft, Thaïs des points de sauvegarde, je m'attarderai sur un petit jeu de course et Avril Lavigne avant que Jean ne passe notre invité à la moulinette de ses questions et que Ash se demandera s'il faut tout simplement abandonner le Representation Matters. Tout ça pour enchaîner sur un blind test qui va peut-être nous faire swinguer à base d'OST chantée. Mais je laisse tout de suite la parole à Alice pour sa chronique.
Merci Alex. À son éveil, sur une plage de sable noir, le pêcheur Andrew ne distingue que des bateaux échoués. Il se relève maladroitement en prononçant un prénom, celui de sa fille. Au loin, à travers la brume, il distingue un phare sur la côte. Pour retrouver son enfant, il entame une marche sur cette île, au bord du rivage. Voici le début de The Shore. Sorti cette année, The Shore est un jeu d'aventure qui se situe entre le simulateur de marche et le survival horror. Il est développé et édité par le grec Ares Dragonis, épaulé par le programmeur Adonis Brostinu et Thanos Zempoukas pour la musique. Il s'agit clairement d'un hommage à l'œuvre de l'écrivain Lovecraft. Vous en avez déjà entendu parler sans doute, cet auteur américain est célèbre pour ses écrits mêlant fantastique, horreur, épouvante et science-fiction. Il existe ainsi tout un univers mythologique dit Lovecraftien, avec des créatures célèbres telles que Cthulhu ou Dagon, qui sont justement présentes dans The Shore. Je tiens à rappeler que malgré tout le génie, la popularité de son œuvre et tout ce que peuvent en dire ses plus fervents admirateurs, Lovecraft n'en demeure pas moins un auteur profondément raciste. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande l'article « Faut-il cancel Lovecraft » d'Antoine Saint-Épondil, dont le lien sera disponible sur la page de l'émission. L'œuvre de Lovecraft est et a été une immense source d'inspiration pour de nombreux romans, films, séries, et le jeu vidéo ne fait pas exception. Ainsi, on trouve toute une flopée de jeux influencés par son univers. Récemment, on a eu Conarium, Dagon et The Shore, sur lesquels je me concentre ici. Comme je l'expliquais, ce jeu met en scène des créatures et des apparitions monstrueuses présentes dans les nouvelles de l'auteur, et il parvient à mettre en place une ambiance inquiétante et mystérieuse. On croisera évidemment le chemin de Cthulhu, une divinité extraterrestre enfouie sous l'océan telle qu'elle est décrite dans l'Appel de Cthulhu. Elle représentait un monstre vaguement anthropoïde dans ses contours, mais avec une tête de pieuvre dont la face n'était qu'une masse de tentacules, un corps squameux d'aspect caoutchouteux, des griffes formidables aux quatre membres et deux longues ailes minces dans le dos. L'artiste a écrit sa propre histoire basée sur l'univers de l'écrivain. Il place l'action dans un décor bien particulier, une île inconnue peuplée de statues d'idoles effrayantes et de structures venues d'un autre monde. Autant d'éléments présents qui rappellent la nouvelle « L'appel de Cthulhu » qui décrit bien une île et des éléments similaires. On retrouve également la présence d'artefacts, un leitmotiv chez l'auteur, ici une pyramide noire qui nous permettra d'affronter certains ennemis. Elle rappelle par exemple la pierre noire gravée de hiéroglyphes de celui qui murmurait dans les ténèbres. Ce qui m'a interpellé ici, c'est comment le jeu arrive à adopter une narration proche de ce que fait l'écrivain dans ses nouvelles et comment cela transmet la peur. Tout d'abord, le jeu reprend un principe que Lovecraft applique souvent dans ses écrits, le récit à la première personne. Cela donne immédiatement plus d'empathie pour le personnage que l'on suit. On a une plus grande conscience de ses appréhensions, mais surtout, on est limité par son propre savoir. Cela crée du suspense et de la peur puisqu'on découvre les informations en même temps que celui-ci. C'est la même chose dans The Shore qui se joue avec une vue subjective, comme si on voyait à travers les yeux d'Andrew. Nos déplacements sont d'ailleurs accompagnés par sa voix pour énoncer ses pensées ou à la lecture d'une lettre. Le survival horror utilise très souvent cette vue car elle place les joueuses en position plus défavorable. On ressent plus certains effets de claustrophobie, il y a parfois des angles morts, on ne peut voir que ce qu'Andrew voit. Quand un monstre nous poursuit, nous attaque, le joueur ou la joueuse a l'impression d'être directement la cible. Dans The Shore, certaines apparitions horrifiques ne sont d'ailleurs visibles que si l'on regarde dans la bonne direction au bon moment. Il n'y a pas de centrage automatique de la caméra sur ces apparitions scriptées, et cela donne donc l'impression de tomber au hasard sur un monstre. Une autre technique très utilisée dans les romans fantastiques, c'est l'épistolarité. Les échanges de lettres et les journaux, comme dans Dracula de Bram Stoker, par exemple. Les personnages de Lovecraft écrivent et lisent des lettres, ainsi que des extraits de journaux. Dans le jeu, on peut trouver sur la plage des bouteilles contenant des messages de certains marins qui se sont échoués sur l'île. Le jeu nous récompense d'ailleurs avec un succès si on parvient à lire toutes les missives. Le récit de ces naufragés décrit d'étranges phénomènes survenus avant leur disparition. Cela donne un contexte à cette île et permet d'en apprendre plus tout en ne visualisant jamais vraiment la menace évoquée. Exactement comme dans les lettres chez Lovecraft. Voici l'extrait d'une lettre dans celui qui murmurait dans les ténèbres. « Je crois que je deviens fou. Tout ce que je vous ai écrit est peut-être un rêve ou un délire. C'était assez horrible jusqu'à présent, mais cette fois c'en est trop. Ils m'ont parlé la nuit dernière, de cette maudite voix bourdonnante, et m'ont dit des choses que je n'ose vous répéter. » Le fait de ne pas décrire complètement des phénomènes paranormaux peut laisser imaginer aux lectrices et aux joueuses le pire et créer un sentiment de peur puisqu'il existe cette menace inconnue. C'était donc un petit aperçu de ce que parvient à faire The Shore, un jeu que je vous invite à découvrir bien sûr, et en plus, il n'est pas très long.
Ça a l'air super bien, mais tout ce que tu as décrit, je me dis qu'en fait je vais jamais y jouer, je crois.
Ah pourquoi ?
J'aurais trop peur.
Voilà. Si ça peut te rassurer, je suis une grosse froussarde et j'ai réussi à faire le jeu, donc ça reste tolérable.
Est-ce qu'on est un peu dans le registre de la peur psychologique ou est-ce qu'on a vraiment des séquences avec des gros monstres bien dégueux qui nous attendent au carrefour du chemin ?
Il y a quand même pas mal de monstres assez, ouais. Ouais, assez dégueux. ça joue pas tant sur le psychologique ouais. Sur ce jeu-là.
Ok, ouais, on est plus dans la démonstration.
Oui.
Ouais, du coup, je pense que ça sera comme Alex, je passerai peut-être mon tour. Pourtant, j'aime bien les atmosphères un peu Lovecraftiennes, mais je sais pas. Si jamais... Il y a beaucoup de jumpscares ?
Non, c'est pas vraiment basé sur le jumpscare, en fait, c'est...
Ah bah ça va.
Mais il y a des petits moments stressants, ouais, quand même.
pour les amateurs d'horreur cosmique lovecraftienne, mais qui ont la frousse devant les jeux d'horreur, moi, je vous recommande fortement de vous pencher sur Blazeball. Là, pour le coup, vous ne trouverez pas de représentation graphique. Les seules images du jeu qui se jouent sur navigateur, c'est des emojis. Donc, a priori, on arrive à gérer sa peur. Mais par contre, c'est réellement un jeu dont le dispositif d'horreur cosmique est extrêmement intéressant.
Je connais pas du tout.
Super. Et du coup, tu dis que ça se joue sur navigateur ?
Tout à fait. C'est le site blazeball.com. Alors après, du coup, c'est un... Ils ne le présentent pas comme un jeu, ils disent que c'est un événement culturel. Et du coup, le jeu est complètement ongoing. Il a commencé pendant le confinement l'année dernière. Il a un peu plus d'un an maintenant. Et chaque nouvelle saison, du coup, amène son lot d'histoires. Et si jamais un jour vous avez 1864 ans à perdre, je vous recommande de vous plonger dans le wiki qui raconte toute l'histoire qui s'est déroulée depuis le début de Blazeball. C'est passionnant.
Ok. On mettra le lien du site dans la description de l'épisode.
Je l'avais vu se lancer l'année dernière et je suis grave curieuse maintenant. Merci.
Franchement, moi, c'était mon GOTY l'année dernière.
Ah oui, carrément.
Ouais.
Merci Lise pour ta chronique et je donne maintenant la main à Thaïs pour sa première chronique de la saison.
Alors, merci Alexandre. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qui commence un jour de l'été 1997. Ou de l'automne. Ou de l'hiver peut-être, tant il est vrai que l'enfant enjoué se moque bien du passage des saisons, immunisé qu'il est encore aux flétrissures du temps. En tout cas, l'histoire commence en 97 et elle implique une Thaïs de 6 ans, une PlayStation première du nom et un jeu un peu underground dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, Final Fantasy VII. À l'époque, mon expérience du jeu vidéo se limitait à peu près à Tintin au Tibet lancé sous MS-DOS, d'interminables matchs de volleyball en gun versus gun sur Tekken 3 et quelques mémorables parties d'une copie de Pong jouée à l'aide de potentiomètres. J'ignorais encore, à ce moment-là, que s'apprêtait à s'ouvrir devant moi tout un nouveau continent de richesses vidéoludiques, je veux bien entendu parler des systèmes de sauvegarde, bien sûr, vous l'aurez tous compris. J'avais donc 6 ans le jour où cette approximation cubique de Pom-Pom Girl, perdue au milieu d'approximations cubiques de Bodybuilder, a prononcé par l'intermédiaire d'une radieuse boîte de texte bleu ces mots encore aujourd'hui gravés en moi. C'est le fabuleux point d'enregistrement. À partir de ce moment-là, est devenu tangible ce concept, cette notion, que ce n'est ni de la magie ni de la colle qui fait qu'un jeu retient, ou non, mes avancées, mais bien un système qui avait été pensé et qui produisait des effets. Toute ma famille jouait sur une seule et même sauvegarde de Tekken. J'avais des post-it tout autour du PC familial pour noter les 3 chiffres qui composaient les identifiants de chargement des niveaux que je parvenais à atteindre dans Tintin, et Pong n'avait besoin d'aucune autre mémoire que celle qu'imposait la tradition d'offrir un stop-to à la personne qui gagnait le plus de manches. Mais désormais, existait dans ma vie un jeu dans lequel je voulais avancer seul et m'assurer que nul autre ne viendrait altérer mes précieuses associations de matéria ou, accidentellement, vendre tous mes élixirs. Mon frère, ma sœur et moi avons tous reçu à Noël une carte mémoire individuelle. La mienne a passé quelques jours et quelques nuits sous mon oreiller autour du disque 3, histoire de m'assurer qu'aucun des deux n'utiliserait ma sauvegarde pour finir le cratère nord pendant mon cours de théâtre. Flash forward d'une solide 20aine d'années. Yanis, programmeur gameplay chez Side by Side de son état, poste sur le Slack du studio une phrase d'apparence anodine. Il faudrait qu'on réfléchisse au système de sauvegarde de Pile-Up. C'est lui. Il apparaît enfin sous mes yeux. Le fabuleux point d'enregistrement. Ou plutôt, le fabuleux point de design auquel j'avais consacré tant d'heures de réflexions abstraites et qu'aucun projet étudiant, aucune game jam, aucun mois de travail sur de microscopiques features de AAA ne m'avait jamais donné l'opportunité d'explorer. J'ai sauté sur l'occasion, comme bondissait à l'époque le point de sauvegarde sur les piles de caisse du hall des débutants. Mais cette fois-ci, le 7e ciel était loin. J'ai pu, à loisir, réaliser l'ampleur de la distance entre réfléchir au concept de sauvegarde et en designer le système. A fortiori, en designer le système pour un jeu censé sortir sur plusieurs plateformes, dont des Xbox et leur profil utilisateur, un jeu multijoueur mais local uniquement, un jeu avec des collectibles, du contenu à débloquer. La distance Terre-Lune au moins semblait me séparer des propositions qui me fascinaient tant. Les mots de passe à retenir sur les jeux arcade, Psychomantis commentant les heures écoulées depuis notre dernière sauvegarde en plein combat de boss, l'effet sur la sensation de contrôle des points de sauvegarde fixes des palaces et de l'autorisation d'enregistrement permanente dans le monde réel de Persona 5, la suppression de sa partie pour aider les joueurs et joueuses en difficulté dans le grand shmup des crédits de Nier Automata. Rien de tous ces signifiants profonds ne me paraissait accessible. La sauvegarde, dont la forme m'avait tout ce temps paru un horizon artistique aussi malléable qu'un caramel retrouvé dans la poche arrière d'un jean après une journée à la bibliothèque, un pur objet de game feel, redevenait à mes yeux ce qu'en réalité elle ne manque pas d'être pour toute personne dont le développement de jeu est le métier, une contrainte. Il faut faire au mieux, au plus efficace, au plus compréhensible, au plus scalable, comme on dit dans la langue de Steve Jobs. Une fois qu'un système de sauvegarde remplit sa fonction, on peut l'utiliser comme une matière première et l'altérer pour servir un propos. Mais tous les jeux n'en ont pas besoin, et c'est tant mieux. Ça n'en rend que plus mémorables les expérimentations. La créativité qui entoure la façon dont un jeu se souvient de nous n'est pas indispensable à ce que l'on se souvienne de lui. Quand on a travaillé sur Pile-Up, on a tâché d'en faire un jeu mémorable, évidemment du haut de notre minuscule expérience. Il a été notre hall des débutants. Finalement, il a une jolie petite feature de sauvegarde automatique, bien de son temps. Et quand vous voyez apparaître à l'écran la petite icône de disquette, qui ne veut sans doute plus rien dire du tout pour un solide 75% de notre base de joueurs et joueuses, il ne faut pas éteindre votre console. Mais aujourd'hui, un nouveau jeu et un nouveau système de sauvegarde nous attendent. Et maintenant que j'ai terminé mon propre tutoriel, je tâcherai de faire de mon mieux pour qu'il soit fabuleux.
C'était hyper chouette, merci beaucoup Thaïs. Je ne sais pas si ma question va anticiper sur tes futures chroniques, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça de... comment dire... de jeu dont tu as mesuré la distance entre le moment où toi tu étais joueuse et le moment où tu as dû les intégrer dans tes propres productions?
Effectivement, ça va faire un peu de foreshadowing, mais oui, en fait, il y en a une infinité. C'est-à-dire, là, moi, du coup, j'en ai arbitrairement choisi 3 pour faire mes chroniques, donc je vais pas spoiler, sinon c'est pas drôle. Mais en fait, à peu près tout, c'est-à-dire que tout ce qui a l'air complètement anodin ne l'est en fait Pas du tout.
Et juste dernière question pour toi, est-ce que la réciproque est vraie? C'est-à-dire, les trucs ont l'air anodins qui en fait sont très compliqués, est-ce qu'il y a des trucs qui ont l'air compliqués quand on est joueuse et joueur, en fait sont plus simples que ce, qu'ils en ont l'air à réaliser?
C'est pas évident comme question, parce qu'en fait ça dépend vachement des profils de personnes qui travaillent sur un jeu. Et il y a des choses qui sont toujours d'une facilité déconcertante pour certaines personnes. Moi, je sais que par exemple, bon, pas forcément, du coup, j'y reviens toujours, c'est ma marotte, mais les menus. En fait, il y a des gens qui ont vraiment une espèce de compréhension complètement instinctive de qu'est-ce qu'il va falloir faire dans un menu. Et qui arrivent à anticiper énormément, énormément de choses. Après, ça va aussi vachement avec le fait que le jeu vidéo, bah, c'est toute une teraflopée de métiers différents et que, ben, du coup, avec un peu de chance, t'auras quelqu'un dans l'équipe pour qui ce sera facile, même si c'est pas forcément la personne à laquelle tu pensais.
Perso, récemment, j'ai joué à Eastward, et justement, c'est un jeu où autant il y a une sauvegarde automatique, autant il rajoute aussi des points de sauvegarde qui sont des frigos dans lesquels tu mets tes souvenirs et qui te donnent une petite phrase à chaque fois une petite phrase sur la mémoire, sur les souvenirs, sur la sauvegarde. Et je trouvais ça justement très sympa, la façon dont ça réinstaurait un côté un peu cérémoniel à la sauvegarde, et ça rejoint un peu, enfin voilà, c'est un peu ta chronique aussi, donc voilà, c'était très cool.
Ah ouais, carrément, j'ai pas encore testé Histoire, mais du coup c'est bon, de toute façon moi tu me dis, il y a un truc de sauvegarde un peu funky dans un jeu, j'ai envie d'y aller. Donc merci beaucoup, du coup j'ai une raison supplémentaire d'y aller.
Ça sera peut-être pour une autre chronique un jour.
Tu crois pas si bien dire.
Mais en tout cas, merci Thaïs et bravo pour cette première chronique. Pour ma part, j'ai envie de vous parler de voitures. Et pas parce que je suis trop pauvre pour en acheter une, mais parce que si vous suivez un peu les dernières sorties, vous êtes sans doute pas passé à côté de Forza Horizon 5. Et c'est bien pour ça que je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Bon, ok, pour vous rassurer, j'y ai joué une dizaine d'heures, c'est très bien, mais peut-être qu'avec moins de marqueurs sur la carte, ça serait mieux. Parce que tout ce qu'a réussi à faire Forza Horizon 5, c'est me donner un gros coup de nostalgie qui m'a fait réinstaller le merveilleux Burnout Paradise. Alors Burnout Paradise, c'est développé par Criterion, c'est sorti en 2008, et c'est le dernier vrai Burnout qu'on a eu sur console. Ça commence à dater, alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, la série des Burnout, c'est des jeux de caisse sortis entre 2001 et 2008, et à partir du troisième opus, une des features principales devient le takedown, le fait d'envoyer de façon spectaculaire un coureur adverse dans le décor, une autre voiture, un bus, et parfois même tout ça à la fois. Alors autant dire que quand je découvre Burnout Paradise au détour d'un bac d'occasion chez Game aux alentours de 2012, je deviens complètement fou. Je fonce à travers les rues ouvertes de Paradise City à 200 km/h, dans une voiture plus chère que le salaire de mes parents sur toute leur vie. Je découvre le drift dans les montagnes avoisinantes, je cherche tous les petits collectibles, ici sous forme de panneaux et barrières à détruire, et enfin le plus important, je joue des heures avec une seule musique active, Girlfriend d'Avril Lavigne. J'ai été marqué par ce monde ouvert de Paradise City, une ville fantasmée de la côte ouest des États-Unis, mon unique but était de battre tous les records. Et si j'ai envie de vous parler de Burnout Paradise, ce jeu qui est pour moi la quintessence du jeu de course d'arcade, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, vous invitez à y jouer, bien évidemment, et en plus c'est dans le Game Pass, alors vous avez vraiment aucune excuse. Et ensuite, parce que c'est pour moi littéralement un jeu doudou. Alors c'est peut-être à cause de Avril Lavigne, peut-être parce que c'est le meilleur jeu de course du monde, je ne sais pas. Mais c'est un jeu sur lequel je reviens sans cesse quand ça va pas trop. Je me souviens l'avoir racheté lors de mon année d'hypocagne et me plonger, même pour une ou deux heures, dans une succession de courses endiablées. Ou même plus récemment pendant le confinement, où je l'ai racheté une troisième fois, cette fois-ci sur PC, et où j'ai réussi à le terminer avec 100% des collectibles, deux fois pendant ces 4 semaines qui ont eu l'impression de durer un an. Et vous voyez où je veux en venir, puisque ma chronique n'est qu'une excuse finalement pour questionner mes camarades, et ainsi je me tourne vers vous toutes et tous pour vous demander, est-ce que vous avez un jeu doudou, et qu'est-ce que c'est?
Ah, un jeu doudou, alors ça peut être n'importe lequel?
N'importe lequel.
Alors moi de mon côté, assurément, c'est le Rayman 3, Rayman Odlumsevok. Je sais pas si vous y avez joué de votre côté, et je crois que c'est le jeu que j'ai dû le plus de fois poncer dans toute ma vie de joueuse, que ce soit toute seule ou avec la famille, avec les copains. Alors c'est un jeu aujourd'hui où j'ai peut-être un regard un peu différent par rapport à celui que j'avais quand j'étais gamine, parce que on a une intro avec des discours qui sont un petit peu sexistes sur certains points. Hein. C'est le, on va dire, le côté un peu shadow d'Ubisoft. Mais de l'autre côté, on a des univers qui sont hyper, hyper créatifs, hyper intéressants. Chaque niveau a vraiment son identité, son petit truc en plus, quoi. Et je sais que pendant la période du confinement, j'ai relancé je ne sais pas combien de fois la PlayStation pour pouvoir y jouer. Et c'était mon petit réconfort de mon côté.
Ouais, il m'a beaucoup marqué aussi. Je l'ai fait quand j'étais petite et... Je me rappelle surtout du début avec une espèce de décor de forêt. Moi, j'avais été complètement enchantée par ce que je voyais. Et puis, quelques boss mémorables aussi. Je crois qu'il y avait un passage avec une sorcière et un chaudron. Ça m'avait fait
beaucoup. Ah oui, la fameuse sorcière. Ouais, celle-là, elle m'a un peu fait rager à l'époque. Effectivement.
Alors, j'ai un jeu un peu doudou, mais c'est le premier jeu de mon blind test. Donc, je vous laisse voir à ce moment-là.
Oh non, c'est pas de bol.
Ce teasing.
Et sinon, oui, c'est vrai que j'ai réinstallé Burnout Paradise il n'y a pas longtemps, parce que c'était un peu... C'était pas forcément mon grand jeu doudou, mais c'était quand même un jeu que j'avais beaucoup aimé, et j'étais un peu nostalgique. D'ailleurs, je sais pas si t'as joué au Need for Speed, qui ont été faits par Criterion, eux aussi, qui sont vraiment dans la veine Burnout, qui sont sortis... Enfin, ouais, qui ont donc continué un peu le flambeau dans les années 2010-2012.
Ah, mais non, du coup, justement, j'ai jamais joué... Enfin, si, j'ai déjà joué à Need for Speed, mais justement, c'est pas vraiment le jeu de caisse genre que j'aime bien, quoi.
De mon côté, c'était Halo, mon jeu doudou, le premier du nom. Mais j'avais fait une chronique à son sujet l'année dernière, d'ailleurs. Et je l'ai même refait pendant le confinement, parce que je me suis banqué la Halo Collection ou je sais pas quoi, là. Et c'était à la fois très cool, mais j'ai été très gêné parce que... Non seulement ils avaient actualisé les graphismes, mais il y avait une touche pour repasser sur les graphismes d'avant, donc ça allait. Mais la bande son était très légèrement modifiée aussi, un peu modernisée. Et là, pour le coup, il n'y avait pas moyen de revenir à la bande son originelle. Et en vrai, je connaissais tellement le jeu par cœur que ça m'a un petit peu gâché l'expérience, quoi. Mais bon, j'ai quand même bien aimé. Mais à chaque fois, je tiquais un peu en me disant « Ah là, cet arrangement de musique là, c'est pas exactement comme ça et tout. » Enfin bref.
C'est fou comme la musique voilà, peut être attachée à des souvenirs forts, et dès qu'il y a un petit truc qui est pas comme d'habitude, tout de suite, ton cerveau te dit « Ah, ça me plaît pas, c'est pas comme avant, quoi. »
C'est exactement ça. Et je t'avoue que je m'attendais pas du tout à être aussi dérangé. Tu vois, au début, je me disais « Ah bon, allez, c'est pas grave. » Et puis en fait, à la fin du premier niveau, je fais « Alors oui, en fait, c'est relou, je n'aime pas.
Ouais. » Pourtant, Halo, c'est pas forcément un jeu qui met la musique au centre de son gameplay, quoi, mais c'est tellement l'ambiance, l'atmosphère,
quoi. Il y a beaucoup d'épicness, quoi. Ouais, il y a les chœurs, les violons, les tambours, enfin voilà, c'est guerrier, quoi. Et bon, c'était toujours guerrier, mais c'était pas guerrier comme quand j'étais ado, quoi. Voilà.
On parle de rapport à la musique et de jeux doudou, alors je pense que vous qui voyez mon avatar sur Discord, vous avez déjà peut-être une petite idée de l'endroit où je me dirige, mais moi, très clairement, c'est Katamari Damacy, qui est mon jeu doudou sous absolument toutes ses formes, en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu auquel je rejoue comme on joue à un jeu doudou, mais c'est un jeu dont j'écoute la musique, c'est un jeu dont je regarde d'autres personnes y jouer, c'est un jeu dont je suis le compte Twitter qui poste régulièrement les images de l'inventaire de Katamari Damacy. C'est un jeu dont j'ai un pins incroyable du prince qui pousse un katamari et du katamari qui roule. Et c'est vraiment un jeu qui est extrêmement, extrêmement présent dans ma vie et auquel je reviens toujours. C'est toujours un bonheur.
J'ai jamais joué à Katamari et du coup, tu me donnes encore un peu plus envie de peut-être le remonter sur ma liste de jeux à faire.
Je relate beaucoup, c'est un jeu qui a tellement de charme. Voilà.
Moi, je le connais pas du tout, mais du coup, je vais aller voir ce que c'est.
Thaïs, tu dois malheureusement nous quitter plus tôt cette fois-ci.
Effectivement.
Sans doute la faute au capitalisme, mais on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.
Effectivement, ce sera avec grand plaisir. Bonne continuation pour l'émission et j'ai hâte de l'écouter.
C'est l'heure de notre première pause musicale avec Planet Lavatron, Sands and Slope, composé par Yusuke Takahama pour Ribbit King. Thank you. Vous écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite, je passe la main à Jean pour l'entretien avec notre invité.
Merci Alex. Donc ce mois-ci, nous recevons Marine Mac, comme Alexandre nous l'avait présenté en intro. Marine, merci encore de te joindre à nous ce soir, c'est super sympa de participer à notre émission.
Merci à vous pour l'invitation, je suis très contente d'être là.
Alors comme Alexandre l'a précisé en début d'émission, tu es galeriste, tu es chroniqueuse, tu es autrice, mais tu possèdes également beaucoup d'autres casquettes puisque tu es également chercheuse, conférencière ou encore vidéaste. Bref, tu as énormément de projets qui gravitent pour la plupart autour de la discipline du concept art, qui est une forme de création visuelle au cœur des processus d'élaboration des univers vidéoludiques. Et c'est ce dont on va parler essentiellement aujourd'hui, évidemment. Mais avant de se pencher un peu plus directement sur la notion de concept art, je voudrais te poser la question de ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots quelles ont été les études, les formations, mais aussi les expériences professionnelles qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui ? Et est-ce que tu saurais dire ce qui t'a incité durant ce parcours à te pencher plus précisément sur le concept art ?
Oui, donc du coup, pour vous donner quelques infos sur la formation que j'ai suivie, donc moi en fait je suis originaire de Bretagne. Et après le lycée, donc, je me suis expatriée de Rennes, ma ville natale, pour aller à Caen et faire un IUT d'information communication. Parce qu'à cette époque-là, moi, ce que je voulais, c'est être journaliste, alors journaliste culture. Je ne savais pas encore que j'allais me spécialiser sur le jeu vidéo. Moi, ce qui me bottait pas mal, c'était l'histoire de l'art et puis la musique aussi beaucoup, parce que j'étais dans un groupe à l'époque, voilà, j'étais chanteuse et puis j'hésitais un petit peu, quoi. Donc je me suis dit, je vais commencer déjà par un IUT et puis je verrai un petit peu où est-ce que ça me mène. Et puis, après une première année d'IUT, je me suis rendu compte que c'était trop peu pour moi, on va dire. J'aimais beaucoup tout ce qui était effectivement écriture journalistique, radio, ça c'était quelque chose qui me branchait beaucoup, mais j'avais des profs qui voulaient me faire entrer dans des écoles de commerce, et ça pour le coup c'était pas du tout mon truc. Donc bien ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée en Bretagne, et je me suis décidée de faire une double licence, à la fois en infocom pour pas perdre les repères, pardon, et puis aussi en histoire de l'art, où là j'ai vraiment commencé à, on va dire, à affiner un petit peu ma passion pour le sujet. Et puis après la double licence, donc j'ai commencé un master en histoire et critique des arts, puisque je voulais faire un petit peu de recherche justement. Et là, je me suis vraiment spécialisée sur la question du jeu vidéo. Donc j'ai écrit un mémoire de recherche sur la notion de paysage vidéoludique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la question de la conception des univers imaginaires de jeux vidéo, du processus de conception environnementale. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et puis, en marge de ce master-là, en fait, je travaillais à l'époque dans une artothèque en Bretagne. Donc, on faisait pas mal de prêts d'œuvres d'art, notamment de la peinture. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'assistais à la scénographie d'expositions. J'organisais pas mal de visites guidées, des expos en cours. Enfin, voilà, c'était vraiment à la fois de la communication, de la médiation autour d'expositions artistiques, culturelles. Et puis, petit à petit, quand j'avais un petit peu de temps à la galerie, qu'il n'y avait pas trop de monde, je travaillais en fait sur mon mémoire. Et la directrice de la galerie dans laquelle j'étais était plutôt intéressée par mon sujet. Elle a commencé à s'intéresser justement aux jeux vidéo. Et elle m'a fait de plus en plus intervenir en fait dans sa galerie pour organiser des petites conférences, des ateliers à destination des jeunes publics sur le sujet. Et ça m'a vraiment donné envie en fait, de poursuivre sur cette voie-là. Et c'est à ce moment-là, en fait, en marge des études, que j'ai lancé mon statut d'auto-entrepreneur pour justement organiser des expositions, des conférences sur le sujet. Je n'ai pas forcément continué sur la voie du doctorat parce que ça a été un petit peu compliqué à la fac par rapport à tout ça, justement parce que, notamment en histoire de l'art, le sujet du jeu vidéo n'était pas forcément reconnu en tant que sujet légitime. Vraiment, le jeu vidéo, c'était le vilain petit canard à l'époque. Alors, on était en 2014 à peu près. Et donc, j'ai un petit peu, on va dire, mal vécu les deux années de harcèlement de mes profs de l'époque qui ne concevaient pas que je puisse faire des études dans leur département sur ce sujet-là. Donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais continuer à faire de la recherche, mais autrement. Et du coup, après ça, je suis partie effectivement à Paris pour continuer cette activité professionnelle. Et c'est ce qui m'a amenée à ce que je fais aujourd'hui, avec ces multiples casquettes, justement.
Ça m'étonne pas du tout que oui, t'aies eu des soucis avec le milieu vraiment très universitaire et institutionnel. de l'histoire de l'art par rapport vis-à-vis du jeu vidéo. Je m'y suis frotté un petit peu aussi et tu as tout mon soutien.
Ouais, c'est pas forcément évident, mais ça commence à changer quand même. Mais
oui, ça commence. C'est vrai. Tu as raison. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un concept art en tant qu'objet? En quoi il se distingue d'un artwork ou d'une illustration, par exemple? Et qu'est-ce que le concept art en tant que pratique?
Alors, vous avez 2 heures. un concept artiste...
Surtout pas 2 heures.
Ouais, c'est un sujet qui est tellement passionnant qu'on ne sait jamais par quel bout le prendre. Pour dire les choses très simplement, donc un concept artiste, c'est à la fois un dessinateur, un explorateur et un traducteur d'idées. En gros, quand débute la création d'un jeu vidéo, bah, généralement, les membres du studio qui l'apportent n'ont pas vraiment d'idée de ce à quoi il va ressembler. Hein, leur visibilité, elle se limite tout au plus à quelques images mentales, mais à une intention créative bien sentie. Et donc, c'est à ce moment-là, donc en phase de pré-production, qu'un studio va faire appel effectivement à un concept artiste. Donc le concept artiste, c'est un artiste, un agent de production, qui va avoir pour charge justement de traduire en images les idées des développeurs, des concepteurs, de les accompagner dans la formalisation de leur projet, pour poser toutes les fondations conceptuelles, graphiques d'une œuvre. Donc ça passe par des recherches sur les environnements des jeux, les personnages, ça peut être des scènes narratives clés, il y a énormément de choses. Hein. Quand je parle de concept art, donc des concepts, ça peut être des concepts ludiques, esthétiques, narratifs, c'est vraiment très très varié. Et donc un concept art, c'est un type d'image qui est très particulière, hein. C'est une image prototypique, qui va donc servir à prévisualiser l'univers à bâtir. Hein. Ça va servir de modèle, de plan technique, d'une certaine façon, aux équipes de production, quel que soit leur rôle à jouer par ailleurs. Ça va les aider à construire, à réaliser le sujet qui est représenté à l'image. Et donc, un concept artiste peut répondre à plusieurs directives, mais c'est vraiment le directeur artistique hein, qui va guider son travail. Le directeur artistique, c'est celui qui va construire une vision globale et qui va justement donner les codes au concept artiste, qui va essayer de servir justement cette vision très particulière. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le concept art, c'est une discipline de design qui connaît plusieurs grandes spécialisations. On peut être concept artiste spécialisé dans la création d'environnements, d'univers de jeu. Donc là, on va vraiment représenter sous toutes les coutures les espaces de jeu à construire. On peut encore être character designer. Donc le character designer, c'est celui qui est spécialisé sur la création des personnages de jeux vidéo, vos avatars. On a encore d'autres spécialisations comme ce qu'on appelle le props artist, donc c'est celui qui va designer tous les objets que vous allez pouvoir utiliser, collecter ou autre pendant votre expérience de jeu. Donc voilà, on a plusieurs spécialisations et on va dire que tout ça dépend beaucoup de la taille des studios. En somme, plus les effectifs des studios sont grands, plus les spécialisations sont effectives. Mais plus l'effectif est réduit, plus là, on va donner la double casquette aux artistes qui vont devoir vraiment tout concevoir à eux seuls. Donc la polyvalence, elle dépend un petit peu de l'environnement. Et pour rappeler justement, tu me demandais quelle était la différence finalement entre un concept art et une illustration. Donc c'est effectivement 2 disciplines, on va le voir, hein, qui ont grandi ensemble, l'illustration et le concept art. Mais disons qu'il y a des différences à la fois dans la fonction et dans l'exécution de l'image. Pour le dire très simplement, en gros, une illustration, ça va être une œuvre d'art qui est destinée à être exposée aux yeux du public, hein, c'est-à-dire qu'elle est vraiment le produit final recherché. Hein. Son auteur doit libérer son style, en soigner le rendu, et ça nécessite forcément un temps de création qui est assez confortable. A contrario, le concept art, c'est vraiment un support de développement visuel, en fait, qui est intégré à un schéma de production industrielle. Et donc, sa réalisation, elle est soumise à des impératifs de temps et à des directives éditoriales qui sont vraiment très, très strictes. Donc, un concept art n'est pas le produit commercial recherché, hein, c'est vraiment un prototype. Il est destiné non pas à être vu par le public, mais seulement par les équipes internes d'un studio. Donc, c'est un outil de communication, de médiation graphique. Et à travers ces images, le concept artiste, il doit énoncer un univers qui va être non seulement original d'un point de vue graphique, stylistique, mais surtout fonctionnel au regard des impératifs de jeu. Donc c'est pourquoi la pratique du dessin ne suffit plus à confondre justement le concept art et l'illustration.
Ok. Oui, la différence du coup est vraiment très très claire entre les deux disciplines et du coup entre les deux objets qu'on obtient à la fin. Si on adopte maintenant une perspective un peu plus historique, tu l'évoquais, tu disais que l'illustration et le concept art ont évolué un petit peu ensemble, en parallèle, puis après les chemins se sont détachés. Du coup, quand est-ce qu'est née la discipline du concept art? Est-ce qu'elle est apparue seulement avec le jeu vidéo? Et comment est-ce qu'elle a évolué d'un point de vue technique, de ses prémices, jusqu'à aujourd'hui?
Alors, c'est pas évident de dater vraiment la naissance du concept art, précisément parce que c'est une discipline qui est vraiment au service de l'industrie du divertissement, mais au sens large, c'est-à-dire le cinéma, le jeu vidéo, l'animation, les parcs d'attractions. Donc, quand on est chercheur sur le sujet, c'est pas évident d'appréhender la chose parce que ça veut dire qu'il faut avoir une approche, une vision qui est vraiment transmédiatique. Et c'est difficile de connaître l'histoire de chacun des médiums par A plus B, c'est pas forcément facile. Par contre, quand on essaye justement de comprendre, on va dire, la naissance et la place du concept art dans ces schémas de production, je dirais que ce qu'il faudrait essayer de comprendre, c'est à partir de quand la discipline devient essentielle justement dans un schéma de production. Donc moi, j'ai essayé justement dans cette immensité du terrain de recherche, d'essayer de trouver des instants clés, des choses qui sont vraiment importantes à comprendre dans cette histoire. Et par exemple, il y a un épisode que moi je trouve très très important dans cette histoire du concept art, c'est par exemple les productions des studios d'animation Disney entre les années 30 et les années 40. En gros, dans les années 20, on le sait, hein, Disney a déjà... pas mal la mainmise sur l'animation américaine. Il y a énormément de courts-métrages qui sont sortis, qui ont fait énormément parler pour voilà, le talent des équipes, etc. Mais on va dire que Disney va passer un peu le cap au-dessus dans les années 30, puisqu'il va se lancer un nouveau défi. Ça va être celui de non plus produire effectivement des courts-métrages, mais des longs-métrages animés. Et donc, il avait très envie effectivement d'approfondir en gros ses scénarios, ses personnages sur la longueur. Et surtout, il était désireux d'explorer, on va dire, de nouvelles contrées stylistiques. Et il va se mettre un peu à cogiter, en gros, comment faire pour mettre vraiment toutes les chances de son côté et transformer l'essai en chef-d'œuvre. Et bien justement, Disney, il va décider de modifier son schéma de production en s'adjoignant de nouveaux agents artistiques dont le rôle, vraiment l'activité, va se résumer en un mot, c'est celui d'inspirer. Leur poste consiste ni plus ni moins à accompagner le lancement de nouveaux projets par la création de dessins de recherche en tout genre. Ça peut être des personnages, des décors, des gags, des costumes, des animaux, bref, un petit peu de tout. Et ce sont donc des illustrations préliminaires qui ne sont pas forcément destinées à intégrer en l'état l'œuvre finale, mais vraiment des œuvres qui vont décliner des idées qui pourraient être intéressantes à adapter à l'écran. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, puisqu'on voit là que la phase du concept art, elle intègre vraiment le schéma de production des studios de l'époque. Alors, on a énormément d'artistes qui ont joué ce rôle au sein du story department à l'époque, des noms qui vous disent peut-être pas grand-chose, comme Ferdinand Horváth, Gustav Tengren, mon petit préféré, des gens comme Bianca Majoli aussi, ou Albert Hunter. C'est vraiment des gens qui avaient une créativité et des idées foisonnantes et qui vont les mettre justement à disposition de ce studio. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une étape clé dans cette histoire du concept art. Alors, on ne parle pas encore de concept art à l'époque. Le terme n'est pas encore posé. Certains prétendraient que Disney l'a nommé tel quel, mais on n'a pas de documents historiques qui en attestent, donc on ne peut pas le dire comme tel. Mais en tout cas, voilà, il se passe quand même quelque chose d'important dans cette histoire à cette époque-là. Et je dirais que la deuxième grande étape de cette histoire, c'est sans doute celle du cinéma hollywoodien des années 70-80, notamment du côté de la science-fiction, puisque effectivement, ce sont des univers qui, par nature, hein, sont imaginaires, qu'il va falloir mettre en image. Et on a déjà quelques artistes de renom aujourd'hui, hein, mais qui vont se faire connaître justement pour leur capacité à inventer des choses merveilleuses. Alors je pense par exemple un artiste, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie, c'est celui qui a mis en image l'univers complet des films Star Wars. Clairement, sans Ralph McQuarrie, il n'y aurait pas eu de Star Wars. Il a été fondateur dans la pose et fondation vraiment de l'œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70-80, ces artistes, qui jusqu'ici étaient désignés à l'écran-titre comme des illustrateurs, eh bien progressivement vont être nommés autrement. Et c'est là qu'on voit effectivement la formalisation d'un langage dédié à la discipline. On va commencer à parler de concept artiste, de concept designer. On a même des termes comme visual futuriste qui apparaissent. Bref, c'est vraiment avec le cinéma hollywoodien, selon moi, que la discipline du concept art va se poser comme essentielle dans cette industrie du divertissement, en fait. Et là, après, je pourrais continuer encore et encore sur cette histoire, mais je vais m'arrêter là parce qu'on a un temps qui est quand même limité. Mais voilà, deux grandes étapes qui sont effectivement le cinéma d'animation Disney et celle du cinéma hollywoodien. Et on pourrait encore créer des ponts entre le concept art et, par exemple, le métier du scénographe de théâtre, qui lui aussi, par le dessin, vise à construire des imaginaires et qui doit respecter des impératifs de jeu. Alors ici, le jeu des acteurs, hein, mais vous voyez, il y a plein de ponts qui sont à tisser, et c'est ça qui rend très complexe et à la fois passionnant ce récit de l'histoire du concept art.
On reprend l'entretien après une petite pause musicale choisie par notre invité, et on s'écoute le thème de Tomb Raider, version 96, composé par Nathan McCree. Vous écoutez 1h et des pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite la suite de notre entretien avec Marine Mac.
Alors toutes ces choses que tu nous racontes et que tu nous expliques, tu les abordes aussi dans ton ouvrage qui vient de paraître. Et j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de ce livre. Je rappelle le titre qu'avait énoncé Alexandre en début d'émission. Il s'intitule « Imaginaire du jeu vidéo, les concepts artistes français », édité par Third Editions et le Cercle d'Art. Alors déjà bravo, à titre personnel, bravo pour un premier ouvrage, c'est un travail absolument incroyable, c'est riche, passionnant, intelligent, et je peux que recommander à tout le monde de mettre la main dessus, en vous le procurant si vous en avez la possibilité, ou en le consultant, dans les bibliothèques et médiathèques de qualité qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, de l'ajouter très bientôt à leur collection. Bref, à propos de cet ouvrage... Donc qui fonctionne en deux parties, tu vas nous l'expliquer, une partie plus voilà un petit peu théorique, historique, où tu poses les choses, et après vraiment des entretiens et des rencontres avec différents artistes de différents studios français. À propos de cet ouvrage, j'aurais, disons, un questionnement en deux temps à te soumettre. Tout d'abord, comment est né le projet du livre? Quelles étaient tes ambitions au début, et comment ensuite ça s'est déroulé? Comment tu les as mis en forme? Comment tu as rédigé, etc. Et ensuite, autre volet, d'un point de vue plus méthodologique, disons, puisqu'il s'agit d'un projet très particulier, premier du genre en France, si je ne m'abuse, quel genre de contraintes tu as pu rencontrer? Est-ce que tu aurais aimé, par exemple, pouvoir sortir du cadre de la production française? Est-ce que tu aurais aimé obtenir plus de droits de reproduction? Bref, quelles difficultés tu as pu rencontrer et auxquelles tu as pu te heurter pendant la réalisation de ce projet?
Alors, peut-être, oui, effectivement, quelques mots sur le contexte dans lequel est né le projet. Écoutez, il y a eu une pandémie mondiale qui nous est tombée dessus. Donc, c'était en mars 2020. Moi, ça faisait un petit moment déjà que je voulais me lancer sur l'écriture d'un livre, effectivement, sur le concept art. Mais faute de temps, avec tous les projets que j'accumulais avec le temps entrepreneuriat, j'avais un peu de mal à dégager du temps suffisant pour passer effectivement à la rédaction. Et puis, en mars, là, je me retrouve, comme tout le monde, hein, confinée, ne plus pouvoir travailler, tous les projets d'exposition annulés, les conférences annulées, les masterclass, je vois mon activité professionnelle s'effondrer. Et là, je me dis, là j'ai du temps, alors pourquoi ne pas en profiter finalement? Donc pendant une petite semaine, j'étais dans mon canapé à me tourner les méninges, à me dire ok, faire un livre, qu'est-ce que t'aimerais faire? Qu'est-ce qui serait important de faire? Je cogite. Et puis je sais pas, un soir j'ai eu le déclic, je dis ok, en fait je vois exactement ce que je veux faire. Et c'est là que j'ai commencé à contacter justement tous les studios, tous les artistes avec lesquels j'avais envie de travailler sur le projet. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment un projet de longue date, mais qui s'est lancé un petit peu par la force des choses, quoi, avec la pandémie. Pour présenter ensuite rapidement le livre, effectivement, comme tu le disais, c'est un livre qui se construit en deux temps. On n'a pas d'ouvrage en France qui prenne vraiment le temps d'aller dans le détail, en fait, de l'analyse de cette discipline. Donc moi, je voulais quelque chose qui soit effectivement explicative, hein, par rapport à ces métiers-là, mais en même temps quelque chose qui soit vraiment grand public. Je voulais pas faire un ouvrage de recherche universitaire. Je voulais vraiment quelque chose comme une initiation à la discipline, au sujet. Donc, j'ai essayé d'avoir une approche, une ligne éditoriale qui serait assez didactique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit effectivement le livre en deux temps. Le premier temps, c'est vraiment une partie plus, entre guillemets, hein, théorique, parce que je suis limitée quand même sur la longueur. Donc, l'idée, c'était vraiment d'expliquer ce qu'était déjà le concept art, d'expliquer quelles étaient les grandes spécialisations de la discipline, parce que quand on est concept artiste d'environnement, on n'a pas forcément les mêmes processus créatifs que ceux qui vont concevoir des personnages. Donc je voulais déjà montrer des spécificités aussi dans les approches de design. Quelques éléments aussi sur l'histoire justement du concept art, on en parlait à l'instant. Encore une fois, c'est pas un ouvrage historiographique, donc l'idée c'était pas d'être expansif sur le sujet, notamment parce que c'est un terrain de recherche qui est très vaste. Moi, ce que je voulais, c'était déjà poser des premières balises pour savoir un petit peu où on allait. Donc j'ai essayé de donner, on va dire, les grandes étapes clés de cette histoire. Et puis, un chapitre également qui revient sur les grandes étapes du processus de design. En gros, bah voilà, on est créateur de jeux vidéo, on se lance dans un nouveau projet. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en place une direction artistique, pour choisir son équipe de concept artistes, pour leur donner les outils dont ils vont avoir besoin pour construire leur projet. Donc vraiment quelque chose, encore une fois, de très didactique sur la discipline. Et puis une fois que toutes ces grilles de lecture sont posées, eh bien là, on arrive effectivement sur la deuxième partie de l'ouvrage. Là, c'est la partie où je me suis fait un petit peu plaisir. L'idée, c'était effectivement d'aller chercher des artistes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo en France et bah, voilà, de leur donner une tribune, un espace, un temps de parole où ils pourraient, à partir d'un jeu spécifique de leur production, revenir sur tout le travail de direction artistique et de design qu'ils ont mis en place pour répondre à une vision créative. Donc on a des entretiens détaillés avec des artistes qui nous parlent de leur schéma de production, de leur philosophie créative, des outils qu'ils peuvent utiliser, de leurs sources d'inspiration aussi pour des projets. C'est assez varié. Et tous ces entretiens sont nourris, bien entendu, par énormément de reproductions de concept art. En tout, on a à peu près 400 images dans l'ouvrage, donc c'est assez volumineux. Donc ça procède un petit peu comme des sortes de mini-artbooks, finalement, de carnets de design. Et je pense que les deux parties de l'ouvrage se répondent bien, avec une partie plus théorique, effectivement, et une autre un peu plus pratique, où là, on se fait plaisir et on se perd un petit peu dans les processus de création des uns et des autres. Donc voilà, ça c'est un petit peu, effectivement, le contexte et le projet en lui-même. Après, tu me posais une question, effectivement, sur la méthode de comment j'ai fait ce livre. Bah écoute, je me suis un peu cherchée au début, parce qu'évidemment, bon, bah, c'était mon premier livre, donc puis un projet qui était assez ambitieux. Pourquoi ambitieux ? Parce que c'est toute la difficulté, en fait, quand on étudie le sujet du concept art, c'est que ce sont des visuels qui n'ont pas pour but d'être exposés au public, donc ils sont conservés dans l'enceinte des studios. Et donc, il faut nécessairement obtenir des droits aux images pour pouvoir les publier, les montrer au public. Et comme moi, je voulais effectivement un ouvrage avec plein de carnets de design, plein de reproductions, bah, avant même de rédiger en fait le livre, il fallait d'abord que j'aille faire du porte-à-porte aux studios, aux artistes, pour leur expliquer le projet, ce que je voulais faire et obtenir les visuels dont je pourrais avoir besoin avant même de passer à la partie rédactionnelle, en fait. Et c'est ce qui fait que cet ouvrage, je ne l'ai pas écrit du chapitre 1 jusqu'aux entretiens. J'ai d'abord commencé par faire les entretiens. Donc, je contactais les studios. Je leur proposais, effectivement, de nous entretenir sur un jeu en particulier. Ensuite, les droits aux images étaient négociés. Donc, et une fois seulement qu'on a validé tous ces entretiens, ce qui m'a quand même pris 8 mois en tout, à partir de là seulement, j'ai pu commencer à travailler sur les parties plus théoriques en fait, de l'ouvrage. Donc ça a été un sacré chantier. J'ai eu quelques nuits blanches pour justement l'obtention de ces droits aux images. Par exemple, on me pose souvent la question, alors depuis que j'ai annoncé l'ouvrage et que j'ai montré le sommaire du livre, on n'arrête pas de me poser la question de pourquoi, par exemple, le studio Arkane n'est pas représenté dans le bouquin. Alors, c'est pas faute de ne pas avoir voulu mettre des œuvres d'Arkane, mais là, en l'occurrence, depuis le rachat du studio par un nouvel éditeur, ils ont complètement gelé en fait, les autorisations de droits aux images, ce qui fait qu'on ne peut plus, si on n'est pas un représentant d'Arkane, bah, publier des concept art de leur production. Donc moi, je ne pouvais pas... Enfin, à chaque fois, en fait, je devais négocier avec les services juridiques des différents studios pour pouvoir travailler sur le sujet, même faire des entretiens informels comme ça avec les artistes. On doit d'abord demander l'autorisation au studio avant de pouvoir les contacter et d'échanger avec eux, donc c'est très, très réglementé, et tout ça forcément bah, c'est un frein hein, à la médiation sur le sujet, donc il a fallu vaincre un petit peu tout ça C'est pour ça aussi que le projet a mis à peu près un an et demi à se faire. Et donc, je suis très contente d'avoir enfin ce premier ouvrage qui, effectivement, dans sa forme, est le premier en France à proposer quelque chose comme ça. Une multiplicité des acteurs de l'industrie pour avoir quelque chose, justement, de panoramique qui favoriserait, justement, la comparaison entre les processus de création, les processus de design, pour avoir vraiment un regard intéressant et intéressé sur le sujet, quoi.
Encore un an et demi, je trouve ça peu pour la masse de travail, d'infos et d'images que tu as réussi à...
Oui, mais c'est vraiment les droits aux images qui m'ont pris du temps. Je pense que si je n'avais pas eu à négocier autant, ça aurait mis moins de temps à être préparé. Ouais, mais là, ouais, clairement...
J'imagine que plus un studio était gros avec un éditeur important, plus c'était compliqué d'obtenir les droits.
Pas forcément. Oui et non, en fait, parce que effectivement, c'est assez drôle. Il y a certains éditeurs où on avait peur justement de galérer un petit peu, notamment ce japonais. Et finalement, comme les artistes justement sont confrontés à ces problématiques de droits d'images, parce qu'eux-mêmes peuvent pas toujours montrer leur travail qui est réalisé en studio, ils avaient déjà en fait tous les contacts des services juridiques en question. Donc moi, ça m'a un peu facilité la tâche et ça m'a permis d'aller trouver les bonnes personnes assez rapidement. Ça, pour le coup, c'était plutôt pratique. Mais malgré tout ça, voilà, même quand vous faites une demande d'autorisation, parfois, pour certains studios, il vous faut jusqu'à 5 mois pour faire la validation officielle auprès du studio juridique, enfin du service juridique. Donc c'est vraiment un travail de titan, quoi, pour y arriver.
Ouais. Ton livre n'est pas ta seule actualité ces temps-ci, puisque tu es aussi la commissaire de l'exposition Lumi Imaginare, qui se tient en ce moment même à Bucarest, à l'Institut français de Roumanie. C'est une exposition internationale qui vise à éclairer le processus de conception des univers vidéoludiques et qui donc se focalise en grande partie sur la phase de concept art. Je profite de cette actualité pour clore notre entretien avec la thématique des expositions de jeux vidéo. Un sujet qui m'intéresse beaucoup et dont tu es spécialiste. Et comme c'est un très vaste sujet, je n'aurai qu'une question pour toi. Comment faire pour exposer des concept art de manière à ce que leur nature et leur fonctionnalité particulière soient ressenties et comprises par les visiteurs et les visiteuses d'une exposition? Parce que tu l'expliquais et tu nous l'as très bien détaillé. Un concept art, c'est destiné avant tout aux équipes internes. C'est un document de travail avant d'être une œuvre. Voilà, ça véhicule des notions de gameplay. Enfin, il y a du ludique, il y a du narratif dedans, il n'y a pas seulement l'esthétique. Donc comment faire pour éviter l'écueil d'une exposition purement contemplative type Beaux-Arts qui passerait complètement à côté de la spécificité des documents présentés? Comment est-ce que toi, tu composes avec cette difficulté?
Ouais, alors comment répondre à ça? C'est vrai que c'est toute la difficulté, hein, alors quel que soit le sujet ou le sens, le bout par lequel on prend le sujet du jeu vidéo, les expositions qu'on nous propose généralement, en tout cas moi c'est généralement ce qui me gêne, c'est qu'on a vraiment une vision du jeu vidéo un peu en pièces détachées. C'est-à-dire qu'on va avoir des salles qui vont être dédiées, alors l'une à la narration, l'autre au visuel, à l'esthétique, une autre encore au game design. Et finalement, le fait de compartimenter en fait cette création, alors c'est pas faux en soi, puisque bien évidemment il y a énormément de savoir-faire, de métiers représentés, donc on se spécialise forcément à un moment ou un autre. Mais je trouve que le fait de compartimenter comme ça, ça nous empêche de comprendre l'aspect systémique de la création. Et si je replace pas ça du côté du concept art, par exemple, ou en tout cas de l'image, moi, ce que j'aime comprendre, c'est comment l'image est adaptée pour ne pas enrayer les mécaniques de jeu, pour favoriser l'expérience ludique. Comment est-ce que l'image, elle est construite et pensée pour délivrer des messages, énoncer des choses, des émotions, etc. Tout ça, en fait, ça participe à voir le jeu vidéo comme un tout et pas effectivement comme ces pièces détachées. Et en tout cas, pour ce sujet du concept art, moi, ce que j'aimerais voir davantage, justement, ou en tout cas moins voir, c'est effectivement cette approche un peu Beaux-Arts, comme tu l'expliquais, où on a une approche purement contemplative, où on nous met des jolis concept art au mur, et puis quand on a de la chance, on a le nom de l'artiste en dessous. C'est même pas toujours le cas. Alors là, c'est encore plus frustrant. Moi, ce que j'aimerais, c'est effectivement des expositions où on nous intègre davantage à la direction artistique du projet qui est porté par le visuel, de comprendre vraiment la fonctionnalité de l'image qui est présentée. Donc d'avoir des informations effectivement sur l'artiste qui l'a composé, sur son parcours, de comprendre davantage son processus de création et les outils qu'il utilise, pour mieux comprendre aussi la chose qu'on a en face de nous, de comprendre la direction artistique, c'est-à-dire la vision créative du studio, et donc là de voir, par exemple, on pourrait nous montrer aussi ce qu'on appelle des mood boards, hein, c'est des planches qui réunissent toutes les sources d'inspiration que les artistes vont chercher pour construire leurs images. Donc là, ça permettrait justement d'intégrer davantage les images du jeu vidéo dans l'histoire de l'art plus largement, quoi. Et puis aussi peut-être d'avoir davantage d'informations sur les schémas de production, l'écosystème studio, quoi, entre guillemets, de savoir qui fait partie du studio, comment est-ce qu'il travaille au quotidien. Enfin, vraiment, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qu'il y a en arrière-boutique, finalement, en fait. Ces images-là, quand elles sont exposées telles quelles dans les musées, effectivement, c'est joli, mais le fait qu'on n'ait pas d'informations sur le concept... ça transforme finalement le concept art en illustration. Et comme on l'a vu tout à l'heure, illustration, concept art, c'est pas la même chose. L'aspect design s'efface quand on n'a pas une scénographie ou quelque chose qui vient éclairer en fait le visuel. Donc moi, je pense que vraiment, en tout cas sur cette partie du concept art, il faudrait davantage insister sur la fonctionnalité de l'image et sur son rapport justement aux autres facettes du jeu qui sont toujours un peu mis de côté ou en tout cas mis dans d'autres salles comme le game design ou la narration. Et c'est effectivement ce que j'ai essayé de faire sur cette dernière exposition qu'on a pilotée en Roumanie, à Bucarest, où là, on n'a pas seulement les concept art qui sont exposés, on a également des cartels d'explications de direction artistique qui détaillent les sources d'inspiration des artistes. On a des commentaires d'œuvres faits par les artistes eux-mêmes qui expliquent, voilà, le pourquoi de l'image, comment ils l'ont composée, comment ils l'ont conçue. Et je pense qu'à partir de là, on comprend un petit peu mieux ce qu'on a en face de nous et ça donne quelque chose qui est quand même plus intéressant pour comprendre encore une fois comment sont conçus aujourd'hui les univers, les imaginaires de jeux vidéo.
Et bien on espère que du coup les prochaines expositions à présenter du concept art s'inspireront de ces bons conseils, vraiment, parce que moi je pense que je pense que je suis pas le seul, j'ai été assez déçu parfois de ce côté un petit peu, ce sont de belles images, regardez comme le jeu vidéo c'est bien, et c'est un peu décevant.
Et merci Jean et Marine pour cet entretien très intéressant, je laisse maintenant le micro à H pour sa chronique et le blind test.
Merci Alex. Une grande partie du militantisme progressiste de ces dernières années s'est regroupée autour du slogan « Representation matters ». On a besoin de plus de représentation, de meilleures représentations pour combattre la discrimination. Mais est-ce qu'il faudrait pas abandonner ce slogan? Je vais prendre ici l'angle de la représentation trans, surtout que c'est un coin où il y a eu pas mal de mouvements. L'année dernière, Tell Me Why et The Last of Us 2 incluaient tout de suite un personnage trans, le personnage principal pour Tell Me Why. On peut les voir comme des victoires pour ce militantisme de la représentation, et effectivement, ils cassent avec la représentation trans dominante. Mais cette représentation trans dominante, c'est quoi? Dans un article publié chez Les Guerrières, l'universitaire transféministe Pauline Clochec montrait que la représentation trans dans les médias mettait systématiquement en scène la punition des personnes trans, surtout des femmes, pour avoir osé transitionner. Qu'il s'agisse de représentations ouvertement transphobes, on pense à Ace Ventura, ou d'autres apparemment mieux intentionnés comme Girl ou The Danish Girl, qui s'étendent à outrance sur la souffrance intime de leur personnage trans. Cette punition à l'écran prolonge la punition bien réelle des personnes osant transitionner dans nos sociétés. En 2020, 60% des femmes trans sommes en situation de rupture familiale. 62% sont victimes de harcèlement au travail, 27% de licenciements abusifs, 20% se sont vus refuser des soins médicaux, un quart se sont fait refuser un logement, 85% ont des pensées suicidaires et la moitié feront une tentative. À cause de l'impossibilité de s'insérer professionnellement, 20% n'ont d'autre choix pour survivre que de devenir travailleuse du sexe. On n'ose pas transitionner parce qu'on a peur, et a raison. Et ces représentations qui montrent comment on souffrira viennent un peu plus décourager les transitions. Tell Me Why et The Last of Us 2 nous présentent tous deux un personnage transmasculin, qui peut effectuer sa transition, heureux dans son genre d'arrivée, et intégré socialement. Et c'est un gros changement, on sort effectivement de cette logique de décourager les transitions. On a donc deux jeux qui nous font une grande tape dans le dos. Cool. Et maintenant ? Parce que, en attendant, la situation concrète pour nous, elle n'a pas bougé d'un pouce. On subit toujours autant de violences. Et la visibilité est loin d'être une solution miracle. Au contraire, la visibilité trans de ces 10 dernières années a aussi eu pour effet une forte structuration, en réponse, des mouvements transphobes à l'international. Ceux-ci commencent à obtenir des victoires, et la transphobie est tout bonnement devenue un point d'entrée et de ralliement pour les mouvements d'extrême droite. Et les deux jeux n'aident même pas à mettre en lumière ces violences. Dans les deux récits, la transphobie vient du cocon familial, et une fois celui-ci éclaté, le monde est joyeux et accueillant. Tell Me Why pousse même le bouchon plus loin, puisque Tyler est incarcéré pendant 10 ans pour le meurtre de sa mère, et tout se passe parfaitement bien en incarcération, c'est même là où il effectue sa transition. Alors que dans la réalité, la police et la prison sont deux institutions incroyablement violentes avec les personnes trans, entre les agressions, l'incarcération des femmes trans dans des prisons pour hommes qui mènent à plus d'agressions, l'accès aux hormones souvent coupées, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces réalités, c'est le terreau dans lequel les stéréotypes et représentations transphobes naissent et prospèrent. Tant qu'on ne l'aura pas changé, elles continueront à être toujours aussi puissantes. Le Representation Matters s'ancre beaucoup sur la figure de la future personne qui ne se serait pas encore découverte, ou du futur homosexuel, ou de la future développeuse, etc. Et qu'il faudrait aider en lui montrant de la représentation. Seulement, les violences ne s'arrêtent pas au moment où on s'est découverte, c'est même là qu'elles commencent. En fait, cette focalisation sur la future trans sert à faire comme si on parlait de nous, tout en évitant de parler de ces violences. C'est même rater le fond du problème des futures trans, perso ce qui m'a empêché pendant 10 ans de me projeter, de simplement m'imaginer femme, c'est la violente punition sociale qui m'était promise, à l'écran et surtout dans la vraie vie. Dans une situation où on est minorisé, les mots pour nous désigner nous servent à mettre en avant nos revendications. Le mot trans doit nous servir à pouvoir mettre en avant les réalités auxquelles font face les personnes trans et s'organiser pour les changer, comme les mots femmes, travailleurs, racisés, handi, etc. Le fait que derrière trans, on s'obstine à mettre bébé trans perdu et qu'on nous refuse de l'utiliser pour accéder à cette parole, c'est une violence qui a un nom, c'est une violence épistémique. Le Representation Matters, c'est une vision souvent infantilisante qui ne comprend pas les mécanismes de la transphobie et des autres discriminations, et prolonge cette violence épistémique, qui est déjà très présente dans les discussions, même bien intentionnées, autour des personnes LGBT. C'est une vision que je vois saturer les discussions partout, sauf dans les espaces militants, parce que c'est la vision qui rassure les cis, au final, plus que de nous aider concrètement. Faudrait penser à l'abandonner. Mais ça ne veut pas dire que la représentation ne compte pas. Cette chronique, c'est un peu un appel à arrêter de parler de représentation et à sortir dehors militer contre les violences concrètes qu'on subit. Mais c'est aussi dire que la représentation a un pouvoir bien plus fort que simplement aider 2-3 personnes à se découvrir. Elle peut mettre en lumière les violences, les rapports de pouvoir, les mécanismes de l'oppression qui restent cachés. Elles peuvent créer un mouvement et réellement changer notre société. Qui plus est, la communauté LGBTI, c'est l'une des rares où l'on a encore une culture populaire très vivante. Et elle explore déjà ce pouvoir de la représentation très bien depuis des années. Le Representation Matters, c'est souvent appelé de tous nos voeux une culture de masse qui écrasera cette culture populaire en espérant qu'elle nous sauve. Elle ne fera qu'invisibiliser nos problèmes, et offrir des millions de ventes à des grands studios même pas fichus de bien payer les meufs dans leur rang.
Merci beaucoup pour ta chronique, Ash. Est-ce que tu penses qu'en ce qui concerne la représentation, elle serait peut-être plus juste et plus politique aussi, si jamais au sein même des studios, les personnes concernées participaient à élaborer ces représentations, parce que c'est souvent aussi, en tout cas de mon point de vue, qui est certainement bien moins renseigné que le tien, mais c'est souvent ce que je peux lire aussi, c'est que c'est chouette d'intégrer des représentations de personnes trans, de personnes racisées ou de femmes, mais souvent ce ne sont pas les personnes concernées au sein des studios qui les élaborent, tout simplement parce que les studios recrutent trop peu de personnes concernées. Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un impact positif sur ces représentations et du coup qu'elles soient plus justes ou plus fortes ou plus politiques?
Je pense que c'est quelque chose de pas mécanique. Tu peux avoir des personnes trans qui ont, enfin voilà, il y a aussi beaucoup de personnes trans qui ont des transitions très très simples parce que c'est des personnes qui ont déjà, enfin comment dire ça. Beaucoup des études sur ce que les parcours des personnes trans ces dernières années montrent que il y a énormément de biais classiste entre guillemets dans la transition, et ça va beaucoup faciliter, voilà, être un peu enfin oui voilà, être un peu aisé, ça va beaucoup faciliter ta transition sur plein de points, ne serait-ce que typiquement voilà quand tu passes chez le psy, il va quelqu'un qui a un peu les codes de comment il faut s'habiller, etc., de comment être un peu élégante, etc., va plus facilement pouvoir convaincre la personne en face d'elle, et voilà, le problème c'est qu'il faut encore convaincre des personnes en face, donc voilà, les personnes aisées vont avoir des transitions beaucoup plus faciles, et ça va influer sur la vision aussi qu'elles pourraient avoir si elles sont pas dans les assos, si elles sont pas, etc. Donc voilà, à chaque moment c'est pas mécanique, mais voilà, il y a des personnes trans qui peuvent avoir des transitions très faciles, pas être très au courant de ces réalités là et pas si enfin pas voir le truc sous cet angle là et voilà, après effectivement évidemment enfin voilà, tout le monde a pas la même transition, au contraire, oui effectivement, avoir plus de personnes trans dans les grands studios, ça pourrait être très bien. Après un autre truc aussi, c'est que c'est ce que j'ai pas eu le temps de trop ouvrir sur ça parce que j'ai un temps très court, mais aussi voilà, beaucoup de jeux, enfin comment dire ça, on n'a pas le fait d'être dans un gros studio va souvent beaucoup te limiter sur qu'est-ce que tu veux dire, comment tu peux le dire, etc. Et en fait il y a déjà beaucoup de trucs très très intéressants qui se font en termes d'histoire qui mettent en place, voilà, plein de personnes marginalisées différentes. Par exemple, l'année dernière, il y avait If Found, qui était un petit visual novel qui avait à la fois ce côté pas du tout misérabiliste, enfin voilà, qui à la fois montrait d'une certaine façon qu'est-ce que c'était de faire un coming out dans les années 90 et d'avoir un peu toute ta vie qui s'effondre, et en même temps qui était pas du tout misérabiliste, qui était plutôt joyeux et presque feel good. Donc ouais, je pense qu'il faut aussi s'intéresser déjà à ce qui se fait en dehors un peu des grands circuits. Et c'est un peu le truc aussi que j'ai vu l'année dernière, c'est que Tell Me Why, il y a plein de remises de prix où Tell Me Why a complètement écrasé littéralement If Found, qui était aussi dans des plus petites catégories, et même dans les catégories de social change où If Found se faisait un peu écraser par Tell Me Why, alors que Tell Me Why est souvent assez simpliste sur j'ai pas eu le temps de développer aussi, mais sur beaucoup beaucoup de points différents.
Ah bah, est-ce qu'on passerait pas au blind test?
Ah si.
Que j'attends depuis le début de l'émission, comme à chaque fois, mais...
Oui, c'est l'heure du blind test, et cette semaine ce mois-ci même dans le blind test, on va chercher des OST qui sont en grande majorité chantées. Parce que c'est des OST qui, je trouve, ont souvent un grand charme. Et d'ailleurs, ça va être prouvé tout seul, parce que deux des jeux qu'on va devoir deviner, c'était deux des Madeleines de Proust qui ont été évoquées tout à l'heure. Et on va commencer par la première, qui est la mienne, dont j'ai un peu tué le nom. Et je te laisse lancer ça, Lazare.
Persona 5 ?
Non.
C'est vrai que ça fait très Persona 5.
C'est presque ça.
Persona 4 ?
Oui. c'était effectivement Persona 4.
Pardon.
Alice, tu t'es fait coiffer au poteau rose, là.
Qui était un peu, du coup, mon jeu de confort. Un jeu qui aime... Enfin, voilà, c'est personnellement une série qui aime beaucoup ses settings. Le Tokyo de Persona 5, comme la petite ville fictionnelle, il me semble, de Persona 4, ont chacune vraiment leur charme. D'ailleurs, j'ai un peu plus d'attachement et de nostalgie pour cette petite ville un peu isolée de tout, où le protagoniste de Persona 4 se retrouve en début de... tout au long du jeu, donc une bande son très entêtante composée par Shoji Meguro, et j'étais presque déçu que le 5 se repose un tout petit peu moins sur de la musique chantée, mais on va pas vraiment se plaindre quand c'est pour nous livrer Beneath the Mask, qui est quand même un sacré bon thème. On va passer à la deuxième, et je peux te laisser lancer ça.
Moi, celui-là, je l'ai pas.
C'est tellement japonais, je trouve trop.
C'est exactement ce que j'allais dire, mais je sais pas trop.
C'est effectivement ça.
Et ah, c'est même... Katamari Damacy.
Oui, c'est Katamari Damacy.
Ah.
Et c'est donc notre deuxième Madeleine de Proust que Thaïs a déjà évoqué.
Dédicace à Thaïs.
Invoqué tout à l'heure, exactement. Qui pensait ne rien trouver dans le blind test alors que j'avais prévu ça.
Je crois qu'on peut lui laisser le point.
Ah oui, non mais complète. Donc le célèbre jeu de Keita Takahashi et une OST Yumi Ake que j'aime aussi énormément, qui mélange beaucoup de genres différents, qui passent de l'un à l'autre parfois dans une même chanson, comme dans ce Katari Mambo. Alors on n'a pas trop entendu, mais ça part vraiment sur quelque chose d'un peu plus mélodique. C'est très énergétique, c'est toujours très très catchy, et c'est vraiment un de mes petits bébés de cœur. Et on peut, ouais, on peut peut-être passer à la suivante. J'ai deux passions dans la vie, les OST chantées et les meufs qui font de la musique en criant dans des micros. Donc forcément, on va passer à celle-là.
Ça me dit un truc. Ça me dit grave un truc.
Ça me dit quelque chose, mais... Parce que c'est dimanche soir.
Ah, ça va même...
Moi, je l'ai pas.
Ouais. Ah, ça va m'énerver, je suis sûr que je connais.
C'est Jet Set Radio Future.
Ah, voilà, c'est ça.
Ah, bah oui.
Excellent choix.
Ouais, je pouvais pas passer à côté de l'OST à moitié composé, à moitié sélectionné par Hideki Naganuma, à qui on n'aurait jamais dû laisser Twitter. qui choisit ici Birthday Cake, un morceau de Shibomato, un duo de trip-hop fondé par deux expatriées japonaises en Amérique. J'aimerais beaucoup parler plus de leur travail, mais on manque de temps. C'est souvent plus calme, et c'est très très cool. C'est sans doute une des grosses inspirations de Kero Bonito, qui est un groupe un peu plus actuel, un peu plus contemporain. Donc si vous voulez aller découvrir ça, je vous le recommande chaudement. On peut ensuite passer au suivant, qui pour le coup va être un peu plus dur, mais j'espère pouvoir vous faire découvrir un petit jeu rigolo.
Est-ce que c'est un jeu japonais?
Oui.
T'as fait exprès, tu m'aimes pas en fait, H, c'est ça?
Oh, je crois que j'avais vu passer ça sur un stream.
On est presque sur une BO de Disney.
Oui, complètement.
Ouais, ça irait très bien dans un Kingdom Hearts. Moi,
ouais, je veux dire une sorte de comédie musicale à la burlesque un peu. Ah, je suis sûre,
C'est Rhapsody a Musical Adventure.
Ah, mais oui, mais voilà.
Ah, je savais pas qu'on aurait des connaisseuses, mais c'est... Enfin, c'est...
Ah si, je l'ai vu passer en... Je sais plus si c'était en stream ou quoi, et j'avais accroché parce que ça me faisait penser à un morceau d'une comédie musicale que j'adorais, et du coup, c'est pour ça que j'avais retenu, mais je me rappelais plus du tout du nom du jeu, là, pour le coup, ça m'a échappé.
C'est effectivement même une petite série de tactical RPG / comédie musicale. Donc premier épisode sur PS1 a eu le droit à une localisation complète en anglais avec les chansons, etc. Donc c'était assez sympa.
Ah, trop cool.
Et c'est aussi les débuts de Nippon Ichi Software dans le RPG, donc les créateurs de Disgaea ou de Labyrinth of Refrain. On retrouve déjà leurs pattes avec un tactical, avec un humour assez décalé, qui s'inspire un peu de la symbolique chrétienne, des contes européens. Et là, on entendait le thème de l'Evil Queen, qui a été le lesbian awakening de quelqu'un pas très loin de moi, qui me fait un grand coucou. Et si les jeux Nippon Ichi sont pas exempts de blagues lourdes parfois, ils ont souvent aussi des personnages féminins assez cool, qui n'hésitent vraiment pas à mettre en scène des méchantes qui sont pas drôles à leurs dépens, mais parce qu'elles sont vraiment méchantes et antipathiques et charismatiques, et c'est des jeux qui, je trouve, gardent vraiment un très grand charme, donc voilà.
Moi, je trouve ça ouf qu'à chaque fois qu'on parle d'un tactical japonais, ça tombe sur Nippon Ichi, du coup, genre... Il y a que eux en fait.
En même temps, ça a été...
qui font des trucs.
Ouais, c'est ça. Ça a vraiment été leur marque de fabrique pendant longtemps. Et ouais. Et enfin, je pouvais pas éviter celui-là. Et je te laisse lancer.
Attends, je connais ça aussi.
Oh purée, ouais, je connais. Sauf que non.
Ouais, faut que ça commence.
C'est pas le jeu là de rythme Necrodancer
si, exactement.
The Crypt of Necrodancer.
Je pense qu'on peut donner le point.
Crypt of the Necrodancer.
Crypt of the Necrodancer.
Ah ouais, elle est trop bien.
Un jeu d'Elys, bravo.
Du coup, vous avez tout dit, c'est Crypt of the Necron Dancer, un dungeon crawler en rythme, s'il vous plaît, qui a eu son petit succès. Et avec son marchand qui chante par-dessus l'OST dès que vous vous approchez du shop.
J'adore. Il est incroyable.
Dans le même genre, on pense par exemple aux gyroïdes d'Animal Crossing qui suivent un peu le rythme des musiques que tu peux mettre derrière en chantant derrière. C'est un petit ajout qui est au final pas si compliqué à coder, je pense, et qui fait toujours son petit effet. Genre, c'est vraiment une des parties les plus drôles de Necrodancer et qui donne beaucoup de charme.
Il est très chouette, je le recommande d'ailleurs vraiment à tout le monde. En revanche, il est assez chaud. Enfin, personnellement, j'ai dû faire les deux premiers niveaux et après, vraiment, j'ai lâché. Bon, j'avais d'autres choses à faire, mais surtout, c'est vraiment, vraiment pas simple. Mais c'est hyper cool. Au moins, ça se teste.
Ouais, j'y ai joué 30 minutes et voilà, je pensais avoir le sens du rythme, en fait, pas du tout.
Moi, les musiques, justement, elles me motivaient à relancer des parties, même si j'étais nul.
On a déjà fait des tests incroyables sur Crypt of the Necron Dancer parce qu'on peut ajouter ses musiques perso, on peut y jouer avec des tapis de DDR. C'est vrai que j'ai pas compté les points.
moi je sais que j'ai un point, Thaïs en a un directement.
En vrai, je pense que moi j'ai un demi-point parce que j'ai 10 personnes à 4, après que t'es 10 personnes à 5, donc je pense que tu gagnes avec un point et demi, je dirais.
Ouais, je laisse H trancher.
Non mais je pense que c'est complètement légitime. En plus, je pensais pas qu'on reconnaîtrait Shoji Meguro d'un personne à l'autre, et c'est parfaitement honorable. Je pense qu'on peut t'accorder la victoire.
Bravo, Lys.
Merci, H, pour ce blind test. Il me semble que la tâche va revenir à Jean pour le mois prochain.
Exactement, ça sera à moi, et j'ai choisi mon thème dans la liste des thèmes que nous avons concoctés. Je ferai des extraits sonores et d'OST de jeux qui ont un rapport avec les enfers. Voilà.
Et tout ça sans jeu japonais.
Eh ben, a priori, en effet, il n'y aura pas de jeu japonais parce que j'en connais très peu, mais sait-on jamais, je pourrais essayer de vous surprendre, du coup, comme vous savez que j'aime pas trop ça, ça pourrait être un petit piège.
Très bien, je note et je vais jouer à plein de jeux dans les enfers d'ici le mois prochain. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up, diffusée sur Radio Campus Paris et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Nous remercions encore une fois Marine Mac de nous avoir accompagnés pendant cette heure et demie, Vincent pour ses choix musicaux toujours au poil, et bien sûr Lazare, notre réalisateur qui va passer du temps à rendre audible tout ce qui vient d'être dit. Le mois prochain, pas d'invité, puisqu'il s'agira de la désormais habituelle émission de Noël, qui sera d'ailleurs diffusée le 26 décembre, toujours à la même heure sur Radio Campus Paris. Et en parlant de Noël, on se quitte avec un peu de magie grâce au thème de la World Map de Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste, composée par Joe Hisaishi, s'il vous plaît.